David ou Philippe, pour la région PACA.
Donc c'est l'élu d'abord, mais on s'organisera. Donc pourquoi nous on s'est lancé dans cette aventure là de construire collectivement des outils d'évaluation d'utilité sociale? Ben, tout simplement parce qu'en 98 on avait en charge la problématique de l'emploi et que pour résoudre les problèmes de l'emploi, ben, il fallait sûrement inventer d'autres choses qui n'existaient pas encore. Et on a été vite confrontés à cette problématique bien connue, que d'un côté, il y avait l'institution, les élus, les services qui ne connaissaient pas grand-chose, qui ne connaissaient que la grande économie. Et à côté de ça, il y avait les acteurs de l'économie sociale qui nous disaient sans arrêt « Nous, ce qu'on fait, c'est bien, donc on mérite de l'aide ». Et puis évidemment, il y avait les troisièmes acteurs, qui étaient les acteurs de l'économie classique, qui dénonçaient les privilèges de l'économie aidée, comme on dit quand même. Et donc premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, ça a été vis-à-vis des services à la personne, où effectivement on a été amené à se dire on ne peut pas continuer à financer que des structures associatives de services à la personne, puisqu'on n'est pas convaincu que le service soit toujours de qualité, et inversement, on a des entreprises de statut classique qui remplissent un certain nombre de critères qui nous semblent pertinents. Donc ça nous a amené, par exemple, à critériser nos interventions sur les trois plus qui apparaissent sur l'écran. Le deuxième cas, ça a été les structures qui font de l'insertion, qui font de l'environnement. Et donc, on en avait ras le bol que ce soit toujours un comportement où ces structures venaient mendier 3 francs 6 sous auprès des collectivités. Donc, on a décidé de travailler sur un autre modèle qui permettait de négocier de véritables prestations avec les collectivités. D'où la fabrication de ce référentiel, qui était basé sur les équivalents monétaires et comme disait Alain tout à l'heure, les dividendes sociétaux. Pour fabriquer ça, il nous a fallu travailler sur différents axes, social, culturel, économique, environnemental, partage du projet, etc. Et on a fait un document, un guide, 60 pages quand même, pour expliquer la démarche quand même, pour les structures. Et c'était tellement compliqué qu'il a fallu faire un deuxième explicatif de 30 pages quand même. Donc vous imaginez l'efficacité, enfin bref, c'était génial quand même. Quoi. Et puis après, il y a eu un troisième cas, c'est que c'est la comparaison avec l'économie classique. C'est-à-dire, donc on s'est amusé à calculer combien coûtait en subvention régionale la création d'emplois dans l'économie classique, donc voilà, et puis dans l'économie sociale et solidaire, c'est la deuxième ligne, donc en gros 3 fois moins cher quand même. Donc ça a créé quelques dissensus, hein, vous l'imaginez aisément quand même, quoi, je veux dire. Ça veut dire qu'effectivement dans l'économie sociale et solidaire, on crée plus d'activités, plus de bonheur au même tarif. Donc rapidement, on s'est orienté vers une démarche de co-construire avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire ces modalités de soutien à l'économie sociale et solidaire, donc la fabrication d'un programme régional de développement de l'économie sociale et solidaire. Et ça nous a amené à définir, à se mettre d'accord ensemble, plus d'un millier de personnes quand même, de qu'est-ce que c'était que l'économie sociale et solidaire. Donc on a fabriqué, au départ, on a appelé ça 9 critères. Évidemment, on s'est aperçu que personne ne correspondait aux 9 critères, donc c'est devenu 9 objectifs, dont voici les 3 premiers. Et donc, on est au cœur du sujet, puisque le premier domaine, c'est les services ou les produits d'utilité sociale. La deuxième aspect, c'est l'aspect impact. Donc, ça rappelle un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ISO 26000. Puis, la gouvernance démocratique. Et il y en a comme ça aussi 6 autres en tout, si tu les as là. Voilà, donc appartenir à un réseau, la gestion des ressources humaines, la mobilisation des parties prenantes, je fais très très rapide, et puis des dernières, c'est l'innovation, l'expérimentation, l'ancrage sur le territoire et l'inscription dans une démarche d'évaluation. Et donc pour nous, ça a été de dire que évaluer l'utilité sociale ou sociétale ou environnementale, ce qu'on ne fait pas la différence, c'est tout simplement reconnaître la contribution au bien commun, et cette contribution n'existe que le jour où le chèque est signé quand même. Et donc, c'est un aspect qui me semble très, très important, c'est que tout le monde dit « telle activité est très, très bien, mais c'est pas pour ça qu'elle est soutenue financièrement ». Or, si effectivement on amène un plus social, il est normal que la société finance une partie. Alors, on a fabriqué effectivement tout ça. Après, la difficulté, c'était de passer à l'usage. Donc, on a travaillé avec les différents acteurs, et en particulier la CRES qui est sur ma gauche. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça. Et on a donc fabriqué toute une batterie de critères, de questions, etc. Donc voici un petit exemple. Donc on s'est à peu près mis d'accord là-dessus entre acteurs et collectivités, sauf que les services dans la collectivité étaient incapables de s'approprier le dispositif tellement il était lourd. Donc ils l'ont revisité. Et donc ça doit être la fiche suivante. Donc voilà. Donc ils se sont, ils ont simplifié l'affaire. Alors en réalité c'est un peu plus détaillé que ça. Hein, je veux dire, mais j'ai remis que les grandes lignes en disant voilà les questions qu'on se pose. Alors à l'arrivée, cette culture de l'évaluation d'utilité sociale est un peu rentrée dans les mœurs de la collectivité régionale, du moins dans certains secteurs. En tout cas par ceux qui ont vécu toute l'expérience. Parce que le document qu'on a fabriqué ensemble, on a mis 20 mois pour le fabriquer. Donc ça a été plus qu'un accouchement classique quand même. Quoi. La difficulté, c'est que les gens nouveaux qui arrivent dans l'institution, ils découvrent ce nouveau monde et ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien. Et même, je pourrais dire que les acteurs qui n'étaient pas impliqués dans la démarche initiale, c'est pareil. Bon, je dis ça parce que je suis en colère. Donc depuis, il y a eu deux suites, et je vais m'arrêter là. Il y a eu une suite sur un dispositif qui est CEDRE, où effectivement on soutient la métamorphose, le changement d'échelle en mettant des sous. Et là, on a bataillé effectivement pour fabriquer aussi une grille d'analyse. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a décidé d'aller au-delà, c'est-à-dire de travailler sur l'économie responsable, des choses là, du style ISO 26000, etc.
Merci.
Tu le remets, s'il te plaît. À randonnée.
Bonjour à tous. Donc David Ekel pour la CRES PACA, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et donc, comme vous le savez tous, la mission des chambres régionales, c'est partout en France, dans chaque région, d'assurer la fonction représentative des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc d'assurer à la fois la promotion des organisations et la défense de leurs intérêts. Donc qu'est-ce qui nous intéressait, nous, dans le processus que la collectivité a proposé il y a quelques années autour du progrès et que Philippe vient de décrire? Je crois que moi je voudrais souligner une première chose, c'est que ça a été pour nous l'occasion trouvée d'affirmer que le développement d'une organisation économique n'était compréhensible qu'au regard de son implication dans un territoire, et dans un territoire considéré comme un espace de co-responsabilité entre un acteur privé et un acteur public. Et donc ce qui était en jeu, c'était bien la co-construction commune d'un projet de développement économique et social sur un territoire. Et donc ça qualifie nos entreprises, ça les ancre sur le territoire et ça nous pose des éléments de méthode et de cadre par rapport à aujourd'hui aux exercices de comparaison qui sont à faire avec notamment les démarches de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et ce qu'on retient, nous, énormément de cette démarche, c'est deux éléments de méthode. C'est, d'une part, ça a permis de rencontrer ce qui a été évoqué plusieurs fois déjà ce matin dans nos projets, la finalité de venir faire se croiser, de mettre en tension la finalité de nos projets, leur intention de création d'une plus-value sociétale et la question qui était portée par la collectivité publique de l'intérêt général. Et que ce qui était intéressant, c'était le croisement de ces deux visions et de ces deux enjeux-là. Mais que par contre, ça laissait pleinement en question l'enjeu pour les organisations de l'ESS de leur propre pratique évaluative au-delà simplement du croisement de la démarche qu'on a menée conjointement. Et je le dis d'autant plus qu'en fin 2009, on a organisé un séminaire sur l'utilité sociale et la problématique de la mesure des richesses sur notre territoire. On a pu mesurer l'évolution des pratiques et du diagnostic, de la vivacité et la richesse du diagnostic partagé entre les organisations et la collectivité. Pour autant, on est resté très interrogatif sur le développement des pratiques individuelles de chaque organisation de l'ESS, sur la mesure, par exemple sur l'application d'un BSA en région PACA, sur 16 000 établissements employeurs. Je crois qu'on compte sur les deux doigts, sur les 10 doigts, sur mes 10 doigts, le nombre de démarches engagées ces dernières années. Donc on a à la fois... Le BSA, c'est le bilan sociétal associatif qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au CJDES. Et l'autre élément de méthode, c'était que l'intérêt qu'il y avait eu et qu'il y a toujours à cette démarche, c'est d'être dans un processus de diagnostic partagé, continuel, sur le territoire. Et que ce processus-là, il faut tout le temps l'alimenter et le garder comme élément de méthode. Et juste une simple illustration, sur notre territoire est émergé depuis maintenant 2 ou 3 ans l'organisation de trophées de la RSE. La CRES a été interpellée en tant qu'acteur économique pour venir participer à la promotion et à la diffusion de l'appel d'offres de ces trophées. La seule chose qu'on nous demandait, c'était de mettre en marche une activité de promotion et d'orienter des projets. Et la seule chose qui était en jeu sur ces trophées, c'était est-ce que le questionnaire posé et les réponses sont les meilleures, quelles sont les meilleures réponses. Et ce qu'on a eu fait là, parce que je pense que ça, du coup, on l'avait ancré comme culture par rapport à ces notions d'évaluation et d'utilité sociale, c'est qu'on a négocié avec les trophées de la RSE de dire non. Ce qui est important, c'est la démarche et le processus collectif qui est engagé autour de ces trophées. Et donc, quid de la composition de vos jurys ? Quelle place vous laissez aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'à un moment, d'autres entreprises viennent défendre éventuellement d'autres visions de ce qui constitue à un moment une bonne pratique en termes de RSE, de manière à confronter à un moment des conventions d'évaluation de la RSE qui ne sont pas identiques selon qu'on soit dans une entreprise lucrative ou dans une entreprise à lucrativité limitée. Donc vraiment au cœur de notre apprentissage, enfin en tout cas sur ce territoire, le fait de rester dans des processus à un moment collectif, dans des démarches où il faut chercher à toujours mettre en débat ces questions et de ne pas figer une norme qui constituerait définitivement l'utilité sociale produite par les organisations. Et dans le prolongement de ça, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, et puis pour répondre à l'interpellation de Philippe tout à l'heure sur les réticences des organisations de l'ESS à s'engager sur le chantier de l'économie responsable en PACA, je pense qu'il n'y a pas de réticence, mais il y a à prendre conscience que... Enfin, de la place où on est, et c'est aujourd'hui partagé à l'intérieur des élus de la CRES, c'est que on fait un constat, c'est que l'économie sociale et solidaire dans les territoires aujourd'hui est une force économique reconnue. Pour partie, elle a gagné ce combat de sa reconnaissance en tant que force vive à un moment qui peut participer à un développement économique. Par contre, force est de constater, et peut-être que ça levera des contradictions dans la salle, qu'à mon sens, aujourd'hui, l'ESS ne constitue pas un mouvement social qui est porteur réellement d'un projet alternatif. Dans le sens où on propose difficilement de nouvelles bases au système économique actuel. Et que cette question-là, cet enjeu, nous pose à nous la question, en tant qu'acteur de l'ESS, de quel processus d'élargissement on doit engager pour intéresser les autres entreprises justement à nos bonnes pratiques en termes d'utilité sociale portée. Et ce chantier-là est compliqué parce qu'on a en face de nous des organisations qui ont des services marketing où parfois vous rencontrez un équivalent temps plein ou deux équivalents temps plein dédiés à la question de la RSE.
Pas comme à la CRES.
Nous, on fait ça le soir, les week-ends. Enfin, je veux dire, les forces en présence ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une question centrale quand même autour de comment on s'organise pour à la fois être dans cette ouverture, dans ce partage de pratiques, et en même temps dans l'affirmation à un moment de pratiques spécifiques. Et donc, ce qu'on a eu décidé, et c'est tout récent chez nous, c'est vraiment un élément d'actualité, c'est on va s'engager, et ça c'est une information pour Philippe, dans l'organisation sur l'ensemble du territoire régional de petits déjeuners organisés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qu'on va essayer de co-construire avec certaines chambres des métiers, sur justement la question de la responsabilité sociétale, plutôt que de la responsabilité sociale, des entreprises. Et l'axe prégnant de ces petits déjeuners pour nous va être en fait le fait de valoriser deux choses dans l'utilité sociale portée par les organisations de l'ESS. D'une part, les effets directs de l'usage des principes démocratiques dans nos organisations, avec la question de l'ensemble de la participation des parties prenantes à l'ensemble du processus de décision, ce qui est un élément, et la cohérence, la manière dont on manage de manière la plus cohérente possible cette question au sein de nos organisations, qui constitue encore aujourd'hui un élément de différenciation important par rapport à d'autres entreprises. Et enfin, en quoi nous avons des formes plus équitables et démocratiques de la circulation de la valeur dans l'entreprise, avec la question des réserves impartageables, de la non-lucrativité de nos organisations, qui à un moment induit des circulations de valeur qui sont différentes, à la fois sur la question des bénéfices produits, mais aussi sur la manière de mettre en relation un fournisseur, un producteur de services et un circuit de distribution. En cherchant aussi, au travers de cette question de la circulation de la valeur, à introduire, enfin à s'emparer d'un langage plus économique qui offrira là des éléments de comparaison avec les entreprises lucratives. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas, je voulais vous passer quelques messages. Merci.